Qui est l'Esprit Saint ?
Jésus lui-même nous le décrit comme l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Et en effet, on va voir que c'est toute la difficulté. Parce que l'Esprit Saint nous fait entendre la voix du Père par les prophètes, mais il ne dit rien de lui-même. Il va nous faire voir, nous révèle qui est Jésus, le Fils, il va nous disposer à l'accueillir, mais pour ainsi dire, il se cache derrière lui. Il ne se révèle pas lui-même. Et même son nom, quand on y regarde de plus près, Esprit Saint, ça ne nous permet pas de lui donner un visage. L'Esprit, dit-on, n'a ni visage ni nom susceptible d'évoquer une figure humaine. Dans toutes les langues, son nom est un nom commun, emprunté aux phénomènes naturels du vent et de la respiration. S'il est aussi personnel que le Père et le Fils, on ne peut cependant pas se mettre en face de lui pour suivre ses gestes, contempler ses traits. L'Écriture, nous dit le dictionnaire de spiritualité, ne nous présente nulle part un portrait de l'Esprit de Dieu. Par contre, elle le montre toujours à l'œuvre dans les cœurs et le monde, en Israël et dans l'Église. Elle en parle presque toujours dans le langage des symboles. Alors si l'Esprit Saint est le premier à agir en nous, il est vrai qu'il est la dernière des trois personnes de la Trinité à être révélée. Et finalement, on voit là toute la pédagogie divine. C'est Saint Grégoire de Nazianze qui disait « L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau Testament a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et il nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, dit Saint Grégoire, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils. Et, quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, c'est Saint Grégoire qui parle, pour employer une expression un peu hardie, dit-il, car c'est par des avances et des progressions, de gloire en gloire, que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Donc vous voyez, en fait, le bon Dieu agit avec nous par étapes. Alors comment pouvons-nous connaître l'Esprit Saint ? Eh bien l'Église nous donne de le connaître à travers ses œuvres, ses actions, dans la liturgie, dans la prière, dans les charismes, dans le témoignage des saints, et aussi par ce qui a été écrit de lui. Et en particulier, dans les Écritures, qu'il a lui-même inspirées, et dans la tradition, dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels. Et avec ce premier petit enseignement, c'est dans l'Écriture que nous allons puiser dans la Bible pour tâcher de découvrir qui est l'Esprit Saint, en parcourant successivement l'Ancien, puis le Nouveau Testament, et nous nous arrêterons à la fin sur les différents symboles et les images de l'Esprit Saint dans la Bible. Voilà, donc ça va être les trois parties. Très facile, Ancien Testament, Nouveau Testament, symboles et images. Alors on y va. L'Esprit Saint caché dans l'Ancien Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est évoqué de manière voilée. Car comme le soulignait Monseigneur Landrieux, qui était évêque de Dijon dans les années 30, il s'agissait alors avant tout de montrer que Dieu est l'unique face au culte païen des idoles. Et donc, s'il est impossible d'affirmer avec l'Ancien Testament que l'Esprit Saint est l'une des trois personnes divines, on en parle néanmoins comme de l'Esprit du Seigneur. Et on va le voir à l'œuvre dans l'histoire du salut, qui est finalement la grande épopée de l'alliance de Dieu avec les hommes. Au commencement, nous dit la Genèse, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Et un père dominicain, le père Maldamé, rapporte que le verbe habituellement traduit par « planer » désigne, selon les spécialistes, le mouvement de l'oiseau qui se pose et qui étend les ailes au-dessus de son nid pour protéger ses petits. Autrement dit, le souffle de Dieu couve les eaux des origines. Et c'est ce que nous disons dans le credo. Nous disons « il est vivificantem », il donne la vie. La parole de Dieu, donc le Fils, et son souffle, l'Esprit Saint, vont être à l'origine de l'être et de la vie de toutes les créatures. Ils sont, nous dit Saint Irénée, comme les deux mains par lesquels le Père a fait toutes choses. Et dans la création, le Fils et l'Esprit conjuguent en quelque sorte leur action qui n'est qu'une. La parole structurante du Fils et l'action vivifiante de l'Esprit. La parole qui va faire l'ordre et l'Esprit qui donne la vie. Quand Dieu façonne l'homme, il met en lui son propre souffle. Alors, nous dit le récit de la Genèse, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais voilà qu'arrive le drame du péché et de la mort. L'homme ne cesse pas d'être à l'image de Dieu, mais il en perd la ressemblance. Et il est, nous dit saint Paul, privé de la gloire de Dieu. Le souffle de la vie divine, la grâce sanctifiante, autrement dit l'Esprit Saint qui agissait dans son âme, lui est ôté. Face à cela, donc grande tragédie, eh bien une chose extraordinaire, une espérance inouïe, la rédemption, est bientôt promise. La bonne nouvelle, d'ailleurs, est annoncée dès la Genèse. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3,15. Et elle va commencer à prendre corps avec Abraham. Elle se prolonge avec les patriarches, les prophètes, pour aboutir au Christ qui va nous racheter par sa croix. Tout cela, nous dit saint Paul, pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc vous voyez, la rédemption pour nous rendre cet Esprit Saint qui nous a été ôté par le péché. Et on le voit, dès l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est effectivement promis par Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes notamment. Le prophète Joël dit « Je répandrai mon esprit », donc il parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » L'Esprit Saint est non seulement promis, mais dès le début de l'histoire du salut, on le voit également se manifester. À travers les juges d'abord. On va prendre le cas le plus emblématique de Samson, que tout le monde connaît bien, dont il est dit « L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui à Mahan et Dan. » Par l'Esprit Saint, ces juges vont être mis à la tête du peuple hébreu et elles vont être rendues capables de gestes inouïs, tout simplement justement pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. On a Gédéon, par exemple, merveilleux exemple aussi. Revêtu de l'Esprit du Seigneur, nous dit l'Écriture, il va vaincre le camp des Madianites, donc plus de 1200 hommes, avec les 300 plus faibles soldats d'Israël, ceux qui auront l'apélo, en semant la panique dans le camp ennemi. Vous voyez donc ce que fait l'Esprit Saint à travers de pauvres instruments. Donc les juges, première étape de la manifestation de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, puis nous avons les prophètes, qui, eux, vont faire encore plus intimement l'expérience de l'action de l'Esprit Saint. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on peut dire que ce sont eux qui vont nous donner à découvrir plus en profondeur qui est l'Esprit Saint. Ils parlent de l'Esprit du Seigneur comme d'une main qui les saisit. L'Esprit, dit Ézéchiel, me souleva entre ciel et terre. Il m'emmena à Jérusalem en des visions divines. Alors comment l'Esprit Saint communique-t-il avec eux? Par des visions, comme nous venons de l'énoncer, mais aussi par des paroles. Alors la question que vous vous posez peut-être, que je me suis posée, est-ce que ce sont des paroles audibles que l'on peut entendre à l'oreille humaine ou pas? C'est difficile à dire. Mais à ce titre, l'expérience du prophète Élie est très intéressante. Vous connaissez certainement cet épisode où Élie, sur le mont Horeb, attend le passage du Seigneur. Ce passage est précédé d'un vent violent, d'un tremblement de terre, d'un feu. Mais le Seigneur n'est ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais il est dans le murmure d'une brise légère, comme le dit notre traduction actuelle. Or, estime le père Laurentin, donc un père jésuite, cette traduction finalement ne rend pas vraiment l'expression du texte hébreu. Il faudrait traduire plus exactement « la voix d'un silence pénétrant ». Donc il s'agit bien d'un message qui a du sens, puisqu'on parle d'une voix, et de, en l'occurrence de la voix de Dieu, mais qui est véhiculée par le silence. Et un silence pénétrant, donc qui pénètre l'âme. Et donc il se situe au-delà des sons audibles. Et ceci, voyez-vous, est très intéressant pour nous, pour notre propre expérience de prière avec l'Esprit-Saint. Contrairement à ce qu'on a coutume de penser, le prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir, mais celui qui parle pour, qui parle au nom de. C'est ce que signifie le nom prophète. Pro, c'est pour, fémi, parler, prophète, il parle pour, et en l'occurrence, il parle au nom de Dieu. Et à ce titre, Moïse est considéré comme l'un des plus grands prophètes, car non seulement il parle au nom de Dieu, mais il parle avec Dieu face à face. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face, nous dit le livre du Deutéronome. L'Esprit-Saint, on nous dit, parle donc par leur bouche, comme nous le confessons dans le Credo. L'Esprit a parlé par les prophètes. Saint Paul s'exclame, l'Esprit-Saint a bien parlé quand il a dit de vos pères par le prophète Isaïe, va dire à ce peuple, etc. Donc l'Esprit parle par la bouche des prophètes. Et c'est vrai qu'il est beau de voir ce lien intrinsèque entre la parole et l'Esprit. Pour entendre la parole de Dieu, pour l'exécuter et pour l'annoncer, eh bien, l'homme doit être animé par l'Esprit. Ézéchiel, par exemple, raconte « Une voix me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » À cette parole, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait, il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, etc. etc. » Voyez ce lien entre recevoir l'Esprit et être capable après de donner la parole, d'en vivre et de la proclamer. Alors c'est vrai que les prophètes se voient parfois contraints d'annoncer la parole divine un peu contre leur gré. Et le pauvre Jérémie en est un exemple frappant. Alors j'avais pas mis de citation, mais je pense qu'il faut que je vous en dise au moins une, je dois en avoir une quelque part. Oui, Jérémie dit « À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os et je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Donc vous voyez, voilà, on a l'impression qu'ils sont un peu contraints d'annoncer la parole de Dieu, mais c'est toujours en pleine possession d'eux-mêmes que les prophètes le font. Et non pas dans les transes qui vont être plus caractéristiques des prophètes de Baal, par exemple des prophètes païens. Alors chose intéressante aussi, déjà dans l'Ancien Testament, on peut voir que l'Esprit souffle où il veut, comme le dira Jésus. Et parfois, là où on l'attend le moins. Et un exemple assez amusant, c'est celui du prophète païen Balaam. Il était parti pour maudire le peuple d'Israël sous les ordres de son roi, et il se retrouve à le bénir parce que l'Esprit de Dieu s'empare de lui. Voilà. Par les prophètes, l'Esprit-Saint éveille les consciences et il va placer chacun devant ses responsabilités. Et il va aussi susciter le désir de sa venue dans les âmes. Parce que nous le savons, la loi a été donnée à Moïse comme un pédagogue, nous dit saint Paul, pour dénoncer le péché. Mais la loi de Moïse ne permettait pas de surmonter le péché. Ainsi David s'écrit dans le psaume 50 « Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. » Et c'est vrai que seul l'Esprit Saint est capable d'ouvrir les cœurs, de transformer des cœurs, dur comme la pierre en cœur de chair. Car les prophètes auront beau parler, rappeler la loi de Dieu, rien ne pourra se faire tant que le cœur d'Israël restera loin de Dieu. Dernier petit point sur les prophètes, on peut souligner que l'Esprit-Saint se communique à eux soit directement, ou se transmet déjà par l'imposition des mains, le geste que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est le cas par exemple du prophète Josué, dont il est écrit « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. » Donc les juges, les prophètes, et nous arrivons maintenant aux rois, qui jouissent eux aussi d'une aide particulière de l'Esprit-Saint en tant qu'ils sont oints. Oints, ça veut dire qu'ils ont reçu une onction. Voilà. Et c'est le cas de David, tout particulièrement. Pour lui, lorsqu'il va recevoir l'onction du prophète Samuel, eh bien directement l'Esprit-Saint va prendre possession de lui. Samuel prit la corne pleine d'huile, dit le livre de Samuel, et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Alors c'est vrai qu'ensuite, il n'en est plus vraiment question jusqu'à l'exil, car la royauté n'a pas tardé à démériter, provoquant même la scission du peuple en deux royaumes. Mais l'assistance de l'Esprit-Saint revient, en particulier pour le chef du peuple, Zorobabel, donc après l'exil, qui va lui restaurer le royaume d'Israël et diriger la reconstruction du temple. Après l'exil, il va venir un temps où il est, dit Daniel, ni prince, ni chef, ni prophète. Ce sont alors les sages qui vont transmettre les lumières du Saint-Esprit pour guider le peuple de Dieu. Et là, on aborde, vous savez, tous les livres de sagesse, donc l'Ecclésiaste, le livre de la sagesse, etc. Je vais encore répandre la doctrine comme une prophétie. Je la lèguerai aux générations à venir, disait Ben Sirac le sage. Et on peut noter que la description de la sagesse que nous livrent ces sages, en la personnifiant, semble pouvoir s'appliquer aussi bien rétrospectivement au Fils, donc le Logos, qu'à l'Esprit-Saint. Christian Larcher, un prêtre dominicain, dit que l'assimilation porte sur tant de points que la sagesse apparaît avant tout comme une sublimation du rôle joué par l'Esprit-Saint dans l'Ancien Testament. Et cela explique pourquoi certains pères de l'Église l'ont considéré comme une préfiguration non du Verbe, mais de l'Esprit-Saint. Vous voyez, la sagesse peut s'appliquer aussi bien à l'un qu'à l'autre. Et enfin, dans l'Ancien Testament, nous avons déjà le portrait du Messie attendu, donc loin par excellence, celui qui doit concentrer en sa personne tous les dons accordés par Dieu à ceux qu'il avait chargés de conduire son peuple tout au long de l'Ancien Testament. Donc il va conjuguer la sagesse de Salomon avec la force de David, la connaissance et la crainte de Moïse avec, et celle des prophètes. Sur lui, dit Isaïe, reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Nous en reparlerons. Car à chaque fois que surgissait en Israël un homme consacré à l'œuvre de Dieu et animé par sa force, on savait que cet homme, juge, roi ou prophète, devait sa puissance à l'esprit. Mais on savait aussi que ses interventions s'éteignaient quand disparaissait le porteur de l'esprit. Et l'on savait d'où venait cette précarité, des révoltes et des résistances qu'on opposait à l'esprit. Car au moment même où il se manifestait, Israël contristait l'Esprit Saint, nous dit Isaïe, et paralysait son action. On attendait donc avec le Messie que le don de l'Esprit Saint se fasse total et définitif. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, conclut Isaïe dans sa plainte. Et cette prière va bientôt être exaucée en Jésus, sur qui repose l'Esprit Saint, et par Jésus, qui nous promet l'Esprit Saint. Et nous voici donc arrivés au seuil du Nouveau Testament. Deuxième partie, l'Esprit Saint révélé dans le Nouveau Testament. Monseigneur Landrieux nous dit qu'à mesure que les temps approchent, à l'époque évangélique, l'action de l'Esprit Saint devient plus pressante. Pour la première fois dans le dessein du salut, et parce que son esprit l'a préparé, le Père va trouver la demeure où son Fils et son Esprit vont pouvoir habiter parmi les hommes. Et cette demeure, c'est la Vierge Marie. Elle qui est le trône de la sagesse. Elle est le chef-d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit dans la plénitude des temps. Dans ce Nouveau Testament, on voit l'Esprit-Saint qui commence par sanctifier et illuminer Jean-Baptiste, le précurseur, dès avant sa naissance. Il sera rempli d'Esprit-Saint, dit Saint-Luc, dès le ventre de sa mère. Jean est plus qu'un prophète. Effectivement, Jean va achever le cycle des prophètes qui a été inauguré par le prophète Élie. Puis l'Esprit-Saint intervient de manière plus éclatante encore au jour de l'incarnation. L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, dit l'ange Gabriel à Marie. Le prodige de l'incarnation du Verbe dans le sein immaculé de Marie est son œuvre. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, confirme l'ange à Saint-Joseph. Et on peut voir dans l'Annonciation comme une proto-Pentecôte, si vous voulez, une Pentecôte en avant-première. Car c'est avec les mêmes mots que Jésus va annoncer à ses apôtres l'envoi de l'Esprit-Saint au terme de sa vie terrestre. « L'Esprit-Saint viendra sur vous, leur dit-il, avant de s'élever au ciel. » Et cette première effusion de l'Esprit-Saint va en entraîner d'autres. L'Esprit-Saint va faire danser de joie le petit Jean dans le sein de sa maman, comme David avait dansé devant l'Arche d'Alliance. Il fait parler Élisabeth au jour de la visitation, puis Zacharie, son papa, sur le berceau du petit Jean-Baptiste, le vieillard Siméon à la présentation. Bref, avec l'arrivée de Jésus, l'action de l'Esprit-Saint se fait plus palpable. C'est que, contrairement aux prophètes qui tenaient leur vocation de l'Esprit-Saint mais comme un don qui venait de l'extérieur, Jésus, lui doit sa conception, son être même. Jésus est tout entier rempli de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est toujours en lui, chez lui, en Jésus. Car dans tout son être, Jésus est le Messie, le Christ, loin par excellence. Et alors, mais que fait l'Esprit-Saint ? Nous en avons une indication précieuse dans l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. Quand il lui dit que l'Esprit-Saint agira en elle, il précise ensuite « C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. » Ainsi, l'Esprit-Saint sanctifie, il rend saint comme lui-même est saint et il rend Fils de Dieu. En outre, il va agir sur notre nature, en l'occurrence celle de la Vierge Marie, sa maternité, en la surélevant, mais sans la détruire. Alors bien sûr, pour Jésus, le Verbe est déjà Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, il est déjà donc saint de toute éternité. Mais, par l'Esprit-Saint, il va l'être aussi dans son humanité, et ce, dès le moment de l'incarnation. En Jésus, nous voyons que notre humanité reçoit une dignité incomparable. Elle va être surélevée jusqu'à être appelée à être divinisée. Voilà, c'est une grande grâce qu'on va pouvoir approfondir tout au long de ce forum. Au moment de son baptême, le fait que l'Esprit-Saint repose sur Jésus est manifesté sous la forme d'une colombe. Et Jean-Baptiste témoigne « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit-Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Et donc on voit bien encore ici le lien entre posséder l'Esprit-Saint et être Fils de Dieu. Pourtant, si l'action de l'Esprit-Saint en Jésus est constante, elle n'est relevée que très peu de fois dans les évangiles. La plupart du temps, elle semble presque passer inaperçue. Alors, que fait donc l'Esprit en Jésus ? Eh bien, on peut dire que l'Esprit-Saint garde Jésus dans son attitude de fils. Non pas que Jésus puisse être autre chose que le fils, mais il ne l'est jamais que dans l'Esprit. En lui, dans l'Esprit-Saint, le Père et le Fils se rencontrent et s'unissent. Et on va le voir tout particulièrement au moment des tentations de Jésus au désert. Une des premières actions de l'Esprit-Saint va être d'envoyer Jésus au désert pour, dit l'Évangile, qu'il soit tenté par le diable, et aussi pour le vaincre, c'est surtout ça. Et que fait Jésus pour répondre à Satan ? Eh bien, il va réaffirmer son obéissance de fils à la volonté du Père. Et on peut dire que la victoire de Jésus est aussi celle de l'Esprit-Saint. L'Esprit triomphe quand la volonté du Père est accomplie. Vous voyez ? On voit bien l'Esprit qui garde Jésus dans son attitude de fils. La mission du fils est d'ailleurs inséparable de celle de l'Esprit. On parle dans le catéchisme de la mission conjointe du fils et de l'Esprit. Et lorsque saint Luc ouvre dans son évangile le récit de la vie publique de Jésus, il dit « Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revient en Galilée, etc. » Vous voyez, donc c'est dans la puissance de l'Esprit que Jésus va agir maintenant. Et suit directement l'épisode où Jésus, dans la synagogue, va s'appliquer à lui-même la prophétie d'Isaïe « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré, etc. » Donc on voit bien que dans la Trinité indivisible, le Fils et l'Esprit sont distincts, mais inséparables. En effet, du commencement à la fin des temps, quand le Père envoie son Fils, nous dit le catéchisme, il envoie aussi son Esprit. Un Esprit qui nous unit au Christ par la foi, afin que nous puissions, comme fils adoptifs, appeler Dieu Père. Parce qu'ils sont tellement unis l'un à l'autre, Jésus ne peut pas réellement, durant sa vie terrestre, nous montrer l'Esprit-Saint distinct de lui. Et pour que l'Esprit-Saint soit répandu et reconnu pour ce qu'il est, il faut que Jésus disparaisse et qu'à voir se déployer sa puissance dans l'Église, on reconnaisse d'où elle vient. Donc Jésus ne nous montre pas l'Esprit Saint, mais pour autant il nous parle de l'Esprit Saint. Il en parle à Nicodème, à qui il déclare qu'il faut renaître de l'eau et de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il en parle aux pharisiens, en leur disant que c'est par lui, par l'Esprit Saint, qu'il expulse les démons. Et il les avertit que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Il en parle à la Samaritaine, comme d'une source d'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Il en parle à ses disciples, comme d'une force qui fera d'eux ses témoins, et il leur promet son assistance dans les persécutions futures. Mais c'est surtout à ses apôtres, dans le grand discours après la scène, et alors qu'ils s'apprêtent à les quitter, que Jésus parle de l'Esprit Saint et de sa mission dans les cœurs. Il en parle alors comme de l'Esprit de vérité, qui leur enseignera tout et leur rappellera ses paroles. Comme le défenseur envoyé par le Père, qui sera pour toujours avec eux, qui témoignera pour lui et qui fera d'eux ses témoins. Comme de l'Esprit qui le glorifiera en prenant ce qui vient de lui pour le leur faire connaître. Comme le défenseur qui établira la culpabilité du monde et qui complétera ce que lui ne peut pas leur dire maintenant. Mais pour cela, dit-il, il faut auparavant qu'il soit glorifié. Et dans son encyclique sur le Saint-Esprit, Jean-Paul II commente ce passage. En présentant son départ, dit Jean-Paul II, comme une condition de la venue de l'Esprit-Saint, le Christ fait le lien entre le nouveau commencement du don que Dieu fait de lui-même par l'Esprit-Saint et le mystère de la rédemption. Donc on voit bien comment l'Esprit-Saint va pouvoir agir dans ce mystère de la rédemption. Autrement dit, l'une des missions du Saint-Esprit va être de recevoir de Jésus les mérites de sa passion et de sa résurrection pour nous les appliquer. Après la résurrection et l'ascension vient le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint promis par Jésus est effectivement envoyé sur l'Église naissante en prière. Et le don de l'Esprit Saint est suivi immédiatement de la transformation des cœurs des apôtres. De timides et peureux qu'ils étaient, les voilà remplis de courage et de force, capables d'annoncer Jésus dans différentes langues. La promesse de Jésus s'accomplit. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est vrai qu'on peut être frappé en lisant le livre des Actes des Apôtres des manifestations merveilleuses suscitées par l'Esprit Saint au premier temps de l'Église. C'est qu'il s'agissait alors d'établir l'Église, de lui faire prendre conscience que désormais elle était conduite par le Saint-Esprit, qu'elle était comme dans sa main et que par lui, par l'Esprit Saint, c'était Jésus qui vivait et agissait en elle. Et en effet, on peut voir que ce sont les gestes de Jésus que l'Église reproduit sous la motion de l'Esprit Saint. Elle obtient courage et témoigne devant les tribunaux. Elle guérit les malades. Elle participe, elle crée l'unanimité dans la prière, la fraction du pain, etc. Voilà. Donc par l'Esprit Saint, c'est Jésus qui agit dans son Église. L'Esprit Saint est celui qui dirige la mission de l'Église. Et on le voit particulièrement agissant dans les Actes des Apôtres. Tant pour la mission de Saint-Pierre, qui ouvre, grâce à l'Esprit Saint, la porte de la foi aux païens en se rendant chez le centurion Corneille, que dans la mission de Saint-Paul, qui se rend ou non dans un lieu selon que l'Esprit Saint l'y pousse ou l'en empêche. C'est assez amusant à voir. Et les apôtres ont conscience de parler et d'agir par et avec l'Esprit Saint. En témoigne le message qu'ils envoient à la suite de ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, qui commence comme cela. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que... Voilà. Dès le début de l'Église, le don de l'Esprit Saint est lié au baptême. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, annonce Saint-Pierre le jour de la Pentecôte, lié au baptême et à l'imposition des mains. Et c'est quand ils arrivent auprès des Samaritains, Pierre et Jean, nous dit les Actes des Apôtres, leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Donc ce sont les deux grands moyens de recevoir l'Esprit-Saint, enfin l'Esprit-Saint qui est donné par le baptême et l'imposition des mains, à moins que l'Esprit-Saint librement n'en décide autrement. Et c'est le cas dans la maison de Corneille. Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, avant même qu'il ait pu faire quelque chose. Voilà. On va terminer ce petit parcours dans le Nouveau Testament en évoquant rapidement ce que disent les épîtres de Saint Jean et Saint Paul sur l'Esprit-Saint. Alors, très rapidement pour synthétiser, on va voir que Saint Jean souligne particulièrement le rôle de l'Esprit-Saint qui nous enseigne et qui va nous mettre en communion avec Dieu. Et Saint Paul, quant à lui, met plutôt en évidence le rôle de l'Esprit-Saint pour passer de l'homme ancien à l'homme nouveau, de l'homme charnel à l'homme spirituel. Marchez, nous dit-il, sous la conduite de l'Esprit-Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Et Saint Paul va nous enseigner également que l'Esprit-Saint fait de nous des fils en nous permettant d'appeler Dieu Abba, Père, c'est l'Esprit-Saint qui prie en nous. Donc on a vu que l'Esprit-Saint est tout particulièrement révélé dans le Nouveau Testament, mais pour en parfaire la révélation, pour mieux manifester sa nature et son action, l'Écriture va aussi utiliser des images et des symboles que nous allons rapidement passer en revue parce que vous les connaissez certainement déjà. Donc troisième partie, les symboles et les images de l'Esprit-Saint dans la Bible. Alors évidemment, le grand symbole de l'Esprit-Saint, c'est le souffle, la respiration, le vent, et c'est d'ailleurs ce que signifie son nom, Roua en hébreu, donc esprit, peut signifier à la fois esprit, souffle, vent. Voilà. Donc le souffle, mais aussi l'eau, qui est signe de l'action de l'Esprit-Saint dans le baptême. On le sait, l'eau est le symbole de la vie. Elle purifie, elle désaltère, et elle s'adapte à chaque vivant qu'elle pénètre. Et c'est ce que fait l'Esprit-Saint dans nos âmes. Nous avons ensuite l'onction d'huile, qui va être le signe sacramentel de la confirmation. On l'a vu, Jésus est le Messie, loin de Dieu de manière unique, mais par l'Esprit-Saint, nous le sommes, nous aussi, à sa suite. L'huile va adoucir, elle rend fort, elle nous permet aussi d'échapper à l'adversaire, et ce sont tous les symboles de l'Esprit qui agit au moment de la confirmation. Et on a aussi, avec le Saint-Crème en particulier, l'association entre l'huile et la bonne odeur du Christ que doivent répandre les chrétiens. Il y a aussi le feu, qui symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit-Saint, l'énergie d'amour. Jésus nous dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. » Et puis il y a également la nuée et la lumière qui sont deux signes inséparables de la manifestation de l'Esprit. Cette nuée, on la voit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Elle va couvrir la tente de la rencontre, elle va couvrir le temple de Jérusalem, la Vierge Marie à l'Annonciation, Jésus lors de sa transfiguration. C'est elle encore qui va dérober Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension et qui, nous dit Saint Luc, révélera Jésus, fils de l'homme, dans sa gloire au jour de son avènement. On sait que Jésus viendra sur les nuées. L'Esprit-Saint est parfois aussi invoqué comme le doigt de Dieu ou la main de Dieu, et enfin comme la colombe, un symbole très présent dans l'iconographie chrétienne, qui est la forme sous laquelle l'Esprit-Saint s'est manifesté au moment du baptême de Jésus. Pour conclure, posons-nous encore cette question. Si l'Esprit-Saint est bien révélé dans l'Écriture, j'ai essayé de vous le montrer tout au long de ce petit enseignement, peut-on affirmer par elle que l'Esprit-Saint est une personne divine avec le Père et le Fils? Autrement dit, l'Écriture nous révèle-t-elle le mystère de la Trinité? Alors de prime abord, cela peut être difficile à discerner. Pourtant, le mystère de la Trinité se présente déjà en filigrane dans l'Ancien Testament, et il se déduit ensuite des affirmations de Jésus dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, c'est le livre de la Genèse qui nous présente deux passages dans lesquels on entrevoit le mystère de la Trinité, a posteriori bien sûr. Lors de la création de l'homme, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », avec l'emploi de la première personne du pluriel, et lors de l'apparition aux chênes de Mambré, Genèse 18, où le visiteur d'Abraham est tantôt un, tantôt trois. Puis dans l'Évangile, Jésus affirme à la fois la distinction des trois personnes divines. Par exemple, il nous dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai ?» De la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous voyez, donc on a l'Esprit qui vient du Père, qui rend témoignage de Jésus. Donc on a bien les trois personnes distinctes. Et Jésus affirme aussi leur égale divinité. Peut-être que l'exemple le plus frappant, c'est lors de sa demande de baptiser les nations au nom singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, ils sont à égale dignité, égale divinité. Mais c'est vrai que c'est ensuite le développement de la réflexion théologique et des dogmes qui va permettre à l'Église d'approfondir sa connaissance de l'Esprit-Saint et du mystère de la Trinité,